Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline.
Hello à tous, ici Pauline Léniaud et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Dans le Gratin, mon job est de décortiquer avec vous les clés du succès de mes invités, que ce soit via leur routine de vie, leur philosophie, leurs pratiques sportives ou alimentaires, leur lecture et de manière générale, la façon dont ces personnalités brillantes font des choix et prennent des décisions. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Audrey Briotet, une personnalité que vous ne connaissez peut-être pas encore, mais que je suis vraiment ravie de vous faire découvrir aujourd'hui. Audrey a connu une carrière éclair dans le secteur de la beauté. Elle a fait ses armes chez L'Oréal, d'abord au marketing de Lancôme ou Biotherme, puis continue chez diverses marques comme MAC ou L'Occitane. En 2012, elle décide de se saisir du rêve américain et quitte tout pour aller habiter seule aux US et prendre la tête du marketing de la marque NARS. Depuis 2016, elle est à la direction générale de Dolce & Gabbana Beauty. Audrey m'a été recommandée par une auditrice, Isabelle, que je salue d'ailleurs au passage, et j'ai tout de suite vraiment accroché avec son histoire et son profil. D'abord parce que j'ai finalement assez peu de personnalités du monde corporate sur le podcast, pour plusieurs raisons. Les entrepreneurs sont souvent plus médiatisés que des managers souvent discrets. La politique d'un grand groupe aussi fait qu'il n'est pas toujours évident de faire prendre la parole à des dirigeants à forte responsabilité. Puis il faut l'avouer quand même, j'ai un fort biais personnel pour l'entrepreneuriat. Mais malgré tout, je suis fascinée par des thématiques comme le leadership ou le management, autant de concepts qui sont tout autant présents dans le monde du salariat, surtout quand on a une carrière aussi brillante que celle d'Audrey, que dans la vie d'un entrepreneur. Au-delà de ses aspects très business, Audrey est une personnalité remarquable avec un parcours qui m'a beaucoup inspirée. Inspirée par les épreuves qu'elle a surmontées, en particulier un terrible cancer qui lui a fait prendre un recul immense sur sa vie et dont elle a accepté de nous parler avec une grande authenticité. Inspirée aussi par des choix parfois risqués dans une carrière qui aurait pu être toute tracée. Enfin, inspirée par sa vision d'un leadership empathique avec lequel elle a su construire l'équipe Dolce & Gabbana. Loin d'une image de la femme d'affaires parfois caricaturale, Audrey nous montre qu'il est possible d'allier leadership et vulnérabilité. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Audrey Briotet. Salut Audrey, bienvenue sur le podcast.
Merci, bonjour à toi.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. La personne qui nous a présenté m'a parlé de toi comme d'une leader. Et en fait, elle m'a envoyé un mail pour tout te dire qui m'a beaucoup intriguée. C'est une auditrice et j'ai beaucoup, beaucoup de demandes d'auditrices. Je réponds malheureusement pas à beaucoup. Et en tout cas, il y a peu de personnes que j'interviewe sur le podcast parce que finalement, j'ai quand même beaucoup de demandes entrantes. Mais son message était tellement intriguant et inspirant que je me suis dit qu'il fallait absolument que je t'aie. Donc, je vais te le lire et je veux bien que tu me dises un petit peu ce que ça t'évoque. Donc elle me parlait de toi en me disant « Audrey, c'est une leader dans une industrie pour les femmes, mais encore dirigée majoritairement par des hommes. Elle est irrévérencieuse par sa franchise, sa joie de vivre. Elle a une vision du management axée sur l'empathie et l'inclusion, facile à dire pour beaucoup, mais pas si évident à mettre en place. » Alors tu comprendras que j'avais très très envie de te rencontrer et de te poser 1000 questions pour préciser la phrase notamment, mais pas que. Et donc si on commence par le commencement, si ça te va, je voulais tout de suite entrer dans le vif du sujet et te parler justement carrière, parce que j'ai beaucoup d'auditeurs aussi sur le podcast qui au final ne sont pas du tout des entrepreneurs et je pense qu'on peut avoir une vision entrepreneuriale et intrapreneuriale dans des grandes entreprises et je pense que tu en as un très bon exemple. Donc je voulais commencer par parler de ça. Voilà, longue introduction. Et du coup en fait si je commence par te poser une vraie question, c'est quelle est ta vision du leadership ? Est-ce que tu as des grands principes ? Ça veut dire quoi pour toi au fond être un leader, peut-être un bon leader ?
Alors d'abord je pense qu'il faut toujours rester fidèle à ses valeurs. On peut pas être un leader en calquant en fait son leadership sur des méthodes, quelqu'un. En fait, il faut aller vraiment puiser le leadership au fond de soi et être extrêmement authentique. Et je pense que j'ai réalisé que c'était comme ça qu'on avait le plus d'impact. C'est d'abord apprendre à se connaître. Je crois que ça, c'est essentiel pour savoir finalement quand on est juste, quand la communication passe le mieux. Je pense que c'est avoir du courage. Je crois que c'est vraiment, moi, c'est mon motto, le courage. C'est-à-dire que même si je sais que mes opinions vont déranger, même si ça va un peu bousculer l'ordre établi, j'hésite pas, en fait. Et j'essaye, du coup, d'avoir ce côté toujours très positif. De vraiment transformer les échecs en opportunités, d'essayer d'aplanir les difficultés, d'essayer de vraiment toujours voir loin et de façon ambitieuse et positive et de rendre l'aventure ludique. Et je pense que c'est ce côté, je pense que c'est ce que la personne qui t'a envoyé le mail voulait dire par la joie de vivre, en fait. C'est que voilà, je croque la vie, c'est qui je suis au quotidien et au final, du coup, c'est qui je suis en tant que leader. C'est-à-dire vraiment cet appétit de découvrir de nouvelles choses, cette curiosité. Et je pense que c'est parce que je suis très fidèle à ce que je suis au quotidien que les gens me suivent.
Ouais, si c'est pas indiscret, tu disais que tu l'as réalisé, tu as eu un déclic, il y a eu un moment dont tu pourrais me parler où tu t'es dit, en fait, peut-être que tu as fait des erreurs précédemment, parce que je trouve que quand on essaye d'être leader, souvent on essaye de plaquer un petit peu, tu vois, des exemples de personnalités inspirantes, et c'est bien souvent la caricature de l'homme très sûr de lui, un peu agressif, etc., ce qui n'est pas ton cas, visiblement. Et je me dis, comment est-ce que tu as eu cette intelligence de savoir qu'il fallait que tu sois toi-même pour être un bon leader?
Alors, d'abord, parce que j'ai jamais eu peur de demander du feedback. Donc ça, je pense que c'est clé. Il faut avoir le courage de se remettre en question et de demander du feedback, non seulement à ceux qui ont travaillé avec, mais aussi pour moi, mais aussi autour de moi, en fait. Et vraiment le demander sincèrement. C'est-à-dire que quand je sentais que les réponses étaient un peu plates ou un peu politiquement correctes, je creusais jusqu'à ce que vraiment je sache ce qui agace et ce qui au contraire motive. C'est un climat de confiance que j'ai réussi à créer autour de moi, évidemment plus avec le temps. Au départ dans ma carrière, justement, j'avais des modèles de management, je pense, un peu plus agressifs. Je pense que j'ai aussi travaillé pour une génération de femmes que j'admire énormément et qui m'ont appris beaucoup, mais qui se transformaient un peu plus en hommes, en fait, quand elles étaient dans un poste de leader, donc il y avait une force, mais presque un peu violente, en fait.
Parfois, hein.
Et je pense que ça, c'est ces premières années-là qui, au final, m'ont imposé un peu ce mode de leadership. Assez tôt, je me suis rendu compte que ça me transformait en une personne qui ne me ressemblait pas. C'est pour ça que je parle de valeurs. Je pense que c'est toujours très important d'être centré, de revenir à qui on est et de se dire, au final, le plus important, c'est quand je rentre ce soir, je vais me regarder dans la glace. Et si j'aime ce que je vois et si je suis droite dans mes bottes, même si j'ai fait des erreurs, c'est ce qu'il fallait faire, en fait. Et c'est vrai qu'au bout de mes premières années, il y a eu un moment où je me suis arrêtée, j'ai regardé derrière moi et je me suis dit, j'ai pas envie de continuer comme ça. Il y avait quand même beaucoup d'agressivité dans les rapports, dans la façon dont on menait les réunions, dans finalement, et on se transforme, hein, il y a une porosité. Donc on devient
évident,
un peu cette personne. Il y a eu un déclic. C'est le moment où je suis partie à Lyon, dans une plus petite structure, chez Valrhona.
Ouais.
Je pense que repartir en province après cette frénésie cosmopolite basée à Paris, ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a ressourcée. Moi, je viens finalement d'un petit village, je viens de Franche-Comté. J'ai reconnu beaucoup de personnalités que j'avais pu croiser pendant mon enfance, mon adolescence. Ça m'a beaucoup apaisée. Je me suis rendu compte que finalement, on pouvait avancer avec un rythme, avec une bienveillance très très motrice, finalement. La bienveillance est quelque chose d'extrêmement moteur. Je pense que ça m'a beaucoup adoucie. Et en fait, après, j'ai évolué dans des milieux anglo-saxons. Donc, 4 ans chez MAC, qui est donc dans le groupe Estée Lauder, donc très américain. Donc, je pense une façon de travailler beaucoup plus factuelle.
J'allais te demander si tu voyais justement des différences avec le business en France ou le management en France aux États-Unis.
Beaucoup. C'est moins émotionnel. Mmh. Donc, ça apaise aussi beaucoup, quelque part, les échanges. Le fait de vraiment rester sur des choses très factuelles. Business is business. Voilà, c'est vraiment ça l'expression qui définit le mieux la façon dont on évolue dans un groupe américain. On peut avoir des échanges un peu musclés. Les gens savent faire la part des choses. Ils savent que ça reste le boulot, ça reste professionnel. Et ça, je pense que ça m'a déjà forcément transformée un peu. Et puis New York, c'est ce qui m'a transformée le plus. C'est les 4 ans que j'ai passés basés à New York, d'abord dans une marque fantastique qui était en pleine explosion. C'était vraiment finalement une expérience de start-up dans un groupe. Et avec vraiment ce que j'ai trouvé différent, c'est que, alors je ne sais pas si c'est spécifique à NARS, mais je pense que c'est très américain, le côté l'équipe passe avant l'individu. Voilà, c'est vraiment ça les US, c'est l'équipe. Ouais. Passe avant l'individu.
Pas d'égo.
Donc, il n'y a pas d'égo. Voilà.
Facile.
et donc, si on est sur un management très, je dirais, très descendant et pas du tout collégial, ça ne marche pas, en fait. Et puis, on était aussi une équipe très internationale. Donc, il faut savoir s'adapter, il faut savoir écouter. Il faut savoir s'adapter à différentes cultures. Dans mon équipe, j'avais une américaine, une française, une chinoise, une singapourienne. Donc voilà.
Ouais, pas forcément la même manière de
travailler,
quoi.
Exactement. Voilà.
Et tu parlais précédemment au tout début de courage. Tu me disais que c'était une des valeurs qui était très importante pour toi. Est-ce que tu aurais un exemple d'un moment où tu as dû faire preuve de courage ? Parce que je suis assez d'accord que le courage, en fait, c'est une valeur clé dans le monde professionnel et qu'on sous-estime complètement, qu'on soit entrepreneur ou pas. Et je pense que tu as tout à fait raison en plus que c'est clé dans le leadership. Mais je pense que pour les auditeurs, ça serait peut-être intéressant d'avoir un exemple de qu'est-ce que ça veut dire le courage. Parce que parfois, on s'en fait aussi une montagne. On ne dit pas non plus qu'il faut sauter, tu vois, d'un balcon pour être courageux ou être complètement inconscient aussi. Parce que je pense que courage ne veut pas dire être inconscient. Ça veut dire voir les risques et y aller quand même. Et est-ce que tu aurais un exemple de quelque chose où en fait tu avais peur peut-être et tu l'as fait quand même parce que tu pensais que c'était ce qu'il fallait faire ?
Alors j'ai des exemples qui sont un peu des grands sauts dans le vide et j'ai des exemples plus je dirais de courage plus au quotidien. Le grand saut dans le vide, c'est quand j'ai quitté L'Oréal parce qu'en fait je suis partie dans l'idée de vraiment repartir aux sources, partir vivre en province.
Ouais,
et quand
c'est
je suis
incroyable
partie,
la différence quand même.
Et quand je suis partie, j'étais vraiment bien à côté dans le groupe. J'avais un parcours tout tracé en fait. D'ailleurs, les gens n'ont pas compris pourquoi je partais en fait.
Et pourquoi donc t'es partie
Parce que je me suis vue, j'avais 30 ans à l'époque et je me suis dit à 40 ans, tu seras la même. Quel est l'intérêt en fait?
Et ça faisait
J'avais
5
envie
ans.
De vivre plusieurs vies dans une même vie. En fait, je crois. Ça faisait 9 ans. Donc, je pense que j'étais arrivée aussi au bout d'un cycle. Et j'ai eu envie de me confronter à d'autres choses, tout en sachant très bien que je pourrais revenir un jour dans le groupe L'Oréal si j'en avais envie. Et je l'ai presque fait à plusieurs moments dans ma carrière. J'ai été resollicitée plusieurs fois. Donc, c'était pas un saut dans le vide non plus, complètement démesuré. Mais c'est vrai que... j'avais cette volonté d'entreprendre. À l'époque, je me suis même dit, quand je suis partie, que j'allais me lancer complètement dans l'entrepreneuriat. J'ai pris 6 mois pour réfléchir. Je me suis dit, c'est trop tôt. Et j'ai besoin d'être dans une structure, même si elle est plus petite. Et c'est là que j'ai compris, d'ailleurs, via Valrhona et aujourd'hui chez Dolce & Gabbana, c'est exactement la même chose, qu'on pouvait avoir des aventures intrapreneuriales, au sein d'un grand groupe. Et que ça me correspondait très bien. Donc ça, c'est, je dirais, le premier vrai leap of faith. Le deuxième, c'est quand j'ai décidé de partir à New York. Je suis partie seule, sans mon compagnon. Et en éclaireur. Et lui m'a dit, pars, je te rejoins, je fais mon possible pour te rejoindre le plus vite possible, mais tu en as toujours rêvé, pars. Et là, je vous avoue que quand je suis arrivée... à JFK avec mes valises.
Ouais. Tu devais pas emmener
là,
large.
Là, je me suis dit, mais là, c'est pas possible. Qu'est-ce que je fais?
Je suis tarée.
Et ma mère m'avait appelé la veille en me disant, ma chérie, j'aimerais vraiment pas être à ta place. Elle avait tellement raison. Et franchement, là, pendant les 6 premiers mois, plein de fois, je me suis dit, je reviens. je repars, je reprends mes valises.
Parce que seule, tu connais personne.
Je connais personne, c'est un choc culturel. Je suis arrivée en plein ouragan Sandy. Voilà, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fabrique là, en fait? Donc ça, c'est la deuxième fois où vraiment je me suis un peu fait peur. Et puis l'aventure Dolce & Gabbana, je me suis fait peur plein de fois, en fait. Déjà, quand on m'a offert cette opportunité qui était incroyable, en toute femme, comme toute femme qui se respecte, j'ai le même réflexe ridicule, hein, je suis pas à la hauteur.
Ouais.
Donc voilà, ça,
j'essaie de le combattre. Hauteur, voilà.
Alors ça, c'est quelque chose, j'ai vraiment des discussions assez régulières avec...
Pour ceci, il y a des hommes qui vivent la même chose aussi. Hein,
c'est vrai, non plus, c'est vrai. Et j'avais justement mon compagnon qui me disait, écoute, hein, si tu étais un homme, tu te poserais pas la question, donc vas-y. Et donc il y a eu ça. Et puis, toute cette aventure, c'était vraiment du test and learn tout le temps, parce qu'en fait, on était la plus grosse marque de parfum qui intégrait le groupe Shiseido IMIE basé à Paris à ce moment-là. Donc on a vraiment un peu révolutionné les process, la façon de faire. Et là, le courage pour moi, il a été quotidien. Ça a été vraiment remettre en cause les choses, remettre en cause les systèmes, ne pas hésiter à aller dire à mon top management que voilà, la façon dont on avait structuré les choses ne marchait pas, qu'il fallait tout revoir. En fait, c'est ne pas hésiter à dire les choses, toujours de façon constructive, faut pas être dans la rébellion. Je pense que sinon on n'est pas écouté. Mais au final, c'est une preuve de courage au quotidien. En fait, on se rend compte que chaque jour, quand on veut faire avancer les choses, quand on a un projet entrepreneurial dans un grand groupe, c'est un combat quotidien.
Ouais,
en fait. Et donc tous les jours, on a besoin de faire preuve de courage. Donc ça passe par. Il y a vraiment des journées où je me dis bon, pour que vraiment j'amène le projet là où je pense qu'il peut aller, il faut que j'ai le courage de dire que je dois changer la structure, je dois changer les ressources, ou je dois changer la structure de mon équipe. Et il y a des jours où je suis fatiguée, j'ai pas envie de le dire. Ce sera plus simple d'arriver le matin et de
juste faire,
mes meetings et puis voilà, et puis de pas me mettre dans ces débats et parce que ça fait plaisir à personne quand on veut bousculer un peu les choses. Et c'est ça en fait, le courage, c'est ces petits actes de courage au quotidien qui demandent beaucoup d'énergie.
Bien sûr. Et qu'est-ce qui te pousse à le faire ?
Alors qu'est-ce qui me pousse à le faire ? Je pense que j'ai tout de suite eu une vision de là où je voulais amener la marque. J'ai eu un rêve de ce que je pouvais en faire, poussé aussi parce que j'ai la chance là pour le coup de travailler avec les designers et créateurs et fondateurs de la marque.
Formidable.
Donc ça c'est formidable. Ça doit être
de sacrés personnages.
Et c'est des personnages incroyables qui eux-mêmes se sont créés tout seuls, complètement tout seuls. Ils le disent, on avait une poignée de Lyra avec nous. Et on a créé ce qui aujourd'hui est un empire.
Oui, complètement.
On est porté par ça. On est porté par les valeurs du groupe Shiseido, qui, grâce au nouveau président, Monsieur Ouattani, est en pleine transformation. Et lui-même a insufflé une énergie incroyable dans le groupe. Il a tout révolutionné. Mmh. La langue officielle, c'était le japonais. Il est passé à l'anglais en un an. On a eu plein de rachats de marques, de signatures, de nouvelles licences. Et donc, lui, c'est quelque part aussi un giant intrapreneur, en fait.
Oui, complètement.
Et donc, là, il y a cette énergie-là. Et puis, il y a mon équipe, parce que j'ai eu la chance de la composer en plus. Ça, c'est une chance incroyable dans une carrière. Ça, vraiment, je le mesure. C'est que quand on a commencé, on était deux. Aujourd'hui, on est 70. Et en fait, c'est des gens que je suis allée chercher de mes aventures précédentes ou que je ne connaissais pas, mais que j'ai découvert. Mais on s'est tous choisis. J'ai vraiment travaillé l'équipe en synergie, en complémentarité. J'ai essayé d'avoir la plus grande mixité possible, que ce soit au niveau des parcours, mais aussi hommes-femmes, vraiment d'avoir des Japonais, des Américains. Et en fait, ça crée une famille qui est aujourd'hui très soudée. Dans les moments un peu difficiles, c'est vraiment eux qui me donnent l'énergie.
C'est clé. Bah, de toute façon, tous les entrepreneurs ou pas à qui je parle me disent toujours la même chose. Si tu n'as pas une équipe, des gens tout simplement avec qui tu aimes travailler, mais ta vie va être un enfer. Donc, la chance que tu as eue effectivement de la constituer, c'est assez formidable. J'y reviendrai parce que quand même, j'ai des questions du coup sur quand tu arrives dans un nouveau job et que tu n'as pas eu le choix de constituer l'équipe, oui. Comment ça se passe. Mais avant ça, sincèrement, j'ai déjà 1000 questions par rapport à tout ce que tu viens de me dire. Si on reprend au début, quand tu m'as parlé là de l'un des leap of faith que tu as fait et notamment en fait du départ de L'Oréal, une question qui m'intéresse, c'est donc tu as fait ce saut d'aller travailler chez c'était quelle marque, une marque,
c'était Valrhona, c'est Valrhona, marque de chocolat,
voilà, exactement, à Lyon. En fait, une question qui m'intéresse, c'est que beaucoup de personnes qui écoutent le podcast ou de façon générale que je connais qui ont des plans de carrière assez précis n'oseraient jamais faire quelque chose comme ça. Est-ce que pour toi, le fait justement de, entre guillemets, couper ta carrière, le fait que des personnes extérieures puissent te dire « Ah, mais là, tu vas quitter un poste bien sous tout rapport chez L'Oréal » va être un frein à ta carrière? Je pense que beaucoup de femmes se posent cette question, que ce soit via la grossesse, via un changement de job, etc. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit « Je vais y aller quand même, je ne peux pas rater cette opportunité, il faut que je tente ma chance à ce moment-là » alors que tu avais 30 ans et comme tu le dis, bon, bah, finalement, toute prédestinée à y rester, quoi.
Alors, je pense que ça vient d'abord du fait que je ne m'imaginais pas dans ce type de carrière-là à la base. J'ai fait beaucoup de danse, j'ai failli être danseuse professionnelle. Et donc, pendant toutes mes études, je me suis dit, je vais travailler dans le milieu culturel. J'ai fait mon premier stage à l'Opéra de Lyon. Vraiment, je ne me voyais pas du tout dans l'univers de la beauté. Et je pense que je suis allée chez L'Oréal parce que justement, ils cherchaient des profils comme le mien. Et aussi parce qu'évidemment, en plus, c'était sur une marque magnifique, Lancôme. Ouais, voilà, donc, mais je savais en y allant que je ne resterais pas nécessairement et que je me réorienterais à un moment ou à un autre, en fait. Donc, je pense que déjà, ça vient de là.
D'accord.
Ensuite, parce que j'ai jamais eu l'envie j'ai besoin de me sentir libre. Voilà, moi ça, je pense que ça c'est mon moteur. C'est que j'ai vraiment besoin de savoir que je suis libre, que je peux arrêter, reprendre quand je veux. Et finalement, quand on est dans un grand groupe, c'est compliqué de pas, à un moment donné, se sentir dans un engrenage, en fait. Donc, je pense que c'est ça aussi, et c'est se tester, c'est se prouver des choses. Je dis pas que j'ai pas douté ou regretté à plusieurs reprises après l'avoir fait. J'ai mis des années avant de comprendre que j'avais vraiment bien fait et que ça me correspondait et que j'avais eu un parcours d'autant plus riche parce que je l'avais fait. Mais je pense qu'il y a eu un gut feeling, vraiment. Je me suis dit, là, je suis prête, j'ai plus envie de continuer, je m'ennuie et j'ai besoin de me sentir plus libre. Et ça peut paraître fou. J'ai besoin de me prouver d'autres choses, j'ai besoin de tester d'autres choses.
Puis comme tu le disais aussi précédemment, finalement, tu aurais peut-être pu retourner chez L'Oréal.
Exactement.
Au final. Et ça, je pense que c'est un message qu'on peut faire passer aussi, c'est que quand tu quittes une grosse boîte comme ça, souvent, si ça s'est bien passé, tu peux quand même globalement y retourner.
Mais exactement, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter et je pense qu'on revient d'autant plus fort, parce que ça m'a appris beaucoup de choses sur moi aussi, ces expériences-là.
Alors justement, donc je voulais te parler un peu de tes autres expériences. Donc à L'Oréal, notamment je voulais te parler de l'expérience internationale. Donc quand tu vas chez NARS, tu m'en as parlé, ça devait pas être facile. Avec le recul, est-ce que ça fait partie, peut-être qu'il y en a d'autres, des expériences qui t'ont vraiment transformé, qui t'ont appris le plus? Est-ce que tu pourrais essayer de faire un espèce de pas de géant en arrière et de me dire, voilà, dans ta carrière, dans tes années de carrière, finalement, qu'est-ce qu'il y a comme moment dont tu te rappelles, comme expérience particulière qui t'ont le plus changé, transformé professionnellement, et qu'est-ce que ça t'a appris, quoi, concrètement?
Alors, bon, je pense que L'Oréal m'a appris énormément. Donc, ça m'a forcément transformée, puisque ça m'a donné une base dont je me sers encore
de
aujourd'hui.
De méthode.
Voilà. Surtout sur une marque très internationale
toi, t'étais
comme Lancôme.
En communication et marketing.
Voilà. Et je pense que ce qui m'a transformée dans l'expérience L'Oréal, c'est que j'ai appris à travailler à l'international. C'est-à-dire que mon premier client, entre guillemets, quand je développais des produits, j'étais sur la catégorie maquillage à l'époque, c'était les US, la France et le Japon. Voilà. Donc, ça, je commençais mes journées avec le Japon, je les finissais avec les Américains et je m'adaptais, en fait, à leur façon de travailler, à leurs besoins. Ça, ça a été un enrichissement incroyable. Je n'avais pas du tout eu dans mon parcours étudiant la possibilité de, comme ça, vraiment voyager, brasser toutes ces cultures. Ça reste un moteur encore aujourd'hui parce que je suis devenue... amoureuse des voyages, je suis tout le temps dans les avions et voilà, et je pense que ça a été vraiment une découverte hein, et ça m'a je sais pas si ça m'a changé mais ça m'a appris des choses sur moi, ça j'ai compris que ça c'était un moteur. Après évidemment l'expérience Valrhona, parce que là j'ai vu des entrepreneurs, des vrais, c'est une très belle marque. C'est,
il y avait combien de personnes dans la boîte à ce moment-là?
Je pense que Valrhona c'est à peu près 1000 personnes.
D'accord.
Et c'est vraiment une marque qui contrôle tout, du sourcing jusqu'à la production, avec un contrôle du savoir-faire, avec un amour du produit. Voilà, on parlait des plantations. Il y avait vraiment cet amour déjà des choses bien faites, du savoir-faire, et puis des vrais entrepreneurs et passionnés. On parlait très tôt de sustainability à l'époque déjà, hein, donc très en avance sur son temps pour tous ces sujets-là, avec un leader très aspirationnel. Donc je pense que...
Qui a été un exemple, un mentor pour toi?
Qui a été un exemple, qui a été un exemple. Et vraiment, je me suis dit, ça, c'est vraiment ces structures-là, cette taille de marque, taille humaine en fait, dans laquelle je pense que moi, je vais pouvoir le plus avoir de valeur ajoutée et m'épanouir
voir les
en fait.
Tes actions.
Exactement. Donc ça, j'ai compris. Voilà, ça, là, par contre, je l'avais déjà un peu senti. Là, je l'ai vraiment compris. Et New York, évidemment. À New York, ça m'a complètement transformée. D'ailleurs, quand je suis revenue de New York, j'étais en choc culturel à Paris. Et je m'y attendais pas du tout.
Ouais, c'est souvent le cas.
Alors, on m'avait dit, tu verras, le retour à Paris, ça va être compliqué. Je n'y croyais pas une seule seconde. Et oui, j'étais devenue très américaine au final. Donc, New York m'a complètement transformée, mais même dans ma façon de vivre mon quotidien. En fait, à New York, les appartements sont très petits, par exemple. Donc, les dîners se font à l'extérieur.
Ouais, c'est vrai. Avec beaucoup de musique.
Et voilà, avec beaucoup de musique, exactement. Aujourd'hui, plus spontanément, voilà, je vais sortir. C'est ce genre d'habitude de vie que finalement, j'ai jamais réussi vraiment. Je suis devenue hybride, je pense.
Au niveau du management, justement, alors je vais avoir plein de questions sur ce sujet parce que moi, il m'intéresse beaucoup personnellement. Je trouve que c'est pas facile. Et souvent, quand on est entrepreneur, en plus, comme moi, on n'est pas bon manager. En tout cas, il y en a, mais je trouve que le rôle du leader et du manager, c'est une vraie question. C'est pas toujours compatible. Et une de mes questions pour toi, c'est notamment donc par rapport à la citation qu'on a commencé par aborder. Donc, on parlait d'empathie et d'inclusion dans ton management. Est-ce que tu pourrais me donner aussi des exemples précis de ce que ça signifie pour toi et au niveau du management, parce que maintenant, tu as une équipe, comme tu disais, de 70 personnes. Donc, j'imagine que tu n'as pas un râteau de 70 personnes
non.
Et que tu voilà, tu as des N-1 qui gèrent aussi en direct toutes ces personnes. Mais ça m'intéresse vraiment énormément. Bon, j'ai plein de questions, mais déjà de savoir quelle a été la culture de management que tu as instaurée, puisque c'est toi qui diriges dans cette entreprise, et ce niveau donc empathique et inclusif. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour toi?
Alors d'abord, je pense que la première chose, il faut libérer la parole. Ça, c'est pas si facile. C'est-à-dire que dans un grand groupe, souvent, il y a quand même des réflexes très hiérarchiques.
Bien sûr. Bon, pas que dans des grands groupes.
Et c'est compliqué de libérer la parole. Donc moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'abord d'être très accessible. J'ai pas du tout dans ma façon de m'habiller, de parler, d'aborder les gens le matin ou dans les soirées de boulot qu'on peut faire, je me positionne comme leur égal, vraiment. Mais parce que c'est vraiment ce que je pense, au fond. Donc, c'est toujours pareil, on en revient toujours à l'authenticité. Et du coup, je me rends, je pense, accessible et j'essaye de vraiment faire en sorte que les gens sentent qu'ils peuvent me parler. Et ça, je crois que c'est clé. Quand je sens des résistances, en fait, je vais les inviter à prendre un café, on va essayer de déjeuner ensemble.
Des forces soi-même proactives
et,
pour aller chercher.
Et vraiment, je vais chercher et je ne parle pas uniquement avec mes rapports hiérarchiques directs, pas du tout. Très souvent, je vais aller déjeuner avec les personnes les plus juniors de mon organisation ou en tout cas prendre un café et vraiment les inciter voilà, à me parler, à me raconter leurs difficultés. Je pense que c'est facile à dire, mais c'est pas si facile à faire. Ouais. Ensuite, dans mon comité de direction, c'est la même chose. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, c'est drôle parce que les premiers qu'on a mis en place, quand on a commencé à être suffisamment structuré pour faire ce qu'on appelait des réunions de comité de direction, parce que quand même, cette aventure a commencé par un joyeux Capharnaüm. Bah, au départ, je leur demandais déjà de faire les sujets. Et bon, déjà, il y avait peu de gens qui répondaient et qui m'envoyaient les sujets. Ensuite, ça a commencé à venir. Même quand c'est eux qui amenaient les sujets sur la table, il y avait peu de
personnes
qui parlaient.
Personne ne parlait en réunion, quoi.
Aujourd'hui, j'arrive plus à.
C'est le problème
avec. Aller faire taire ou à passer d'un sujet à l'autre. Donc ça, c'est une belle réussite. Je suis très contente. Et puis, quand quelqu'un vient me voir avec un problème, je dirais, voilà, entre deux équipes, les deux équipes ne s'entendent pas et n'arrivent pas à travailler ensemble. La première chose que je fais, c'est leur demander de parler, en fait. Et les obliger à se parler, en fait. Et ne revenir vers moi qu'une fois qu'ils l'auront fait. Et la plupart du temps, ils ne reviennent pas.
Et qu'est-ce que tu fais dans ce genre de cas ?
Ils ne reviennent jamais.
Ah, ils ne reviennent pas parce qu'ils se sont parlé.
Parce qu'ils se sont parlé. Et c'est tout simple. Hein. Mais c'est ce genre de réflexe, en fait, qui fait que... Et surtout, je cultive la bienveillance, en fait. Mais ce n'est pas seulement moi, la bienveillance que j'ai, moi, par rapport à mes équipes. C'est que, je leur ai dit d'ailleurs, vous allez être évalué sur, bien évidemment, votre performance, bien évidemment, mais aussi sur votre aspect collaboratif. Ça me tient à cœur. Donc, à la fin de l'année, je vous dirai si vous avez été suffisamment collaboratif.
C'est hyper intéressant parce que
collaboratif.
C'est un KPI, entre guillemets, qui est assez rarement
Mais je l'aurais formulé. Je leur ai dit, vous serez vraiment... et puis après, j'ai fait des retraites au vert dans les moments où justement les choses se tendaient un petit peu. Et j'avais, de mon expérience de danse, de théâtre, je sais à quel point justement toutes les techniques d'improvisation peuvent aider à libérer les tensions, libérer la parole. Donc, je suis allée voir une équipe d'acteurs de théâtre d'improvisation que je connais qui ont fait toute la première journée avec nous. C'était extrêmement surprenant pour mon équipe. Moi, c'était une surprise pour eux. Moi, je savais à quoi je m'attendais. Ouais. En plus, je l'avais déjà fait. Mais en fait, on fait des exercices tous ensemble. Justement, je leur avais donné comme objectif de vraiment renforcer les synergies, la bienveillance et la confiance entre les différents membres de mon équipe.
Hyper difficile.
Donc,
quand
voilà. Donc, on a fait plein d'exercices qui, voilà, en fait, on se donnait un mot en se croisant. En fait, donc, on était dans un grand jardin, on se croisait et aléatoirement, et on donnait un mot à la personne qu'on croisait. Et en fait, elle devait le mémoriser, en donner un deuxième. Et on devait, après une grande balade, une fois qu'on s'était tous croisés, restituer. Voilà, plein de techniques comme ça. On avait fini par la Commedia dell'arte, qui fait beaucoup de sens par rapport à Dolce & Gabbana.
C'est clair.
Déjà, ça avait, du coup, complètement libéré la parole. Après ça, en fait, on s'est attaqué à toutes les problématiques et moi, j'ai assisté à tout. Et c'est vrai que j'y tenais beaucoup parce que je voulais qu'ils puissent aussi parler de moi, de mon mode de management en ma présence. Alors, j'avais pris un coach, évidemment. Hein.
Attends, c'est pas évidemment, tu dis ça, mais c'est pas si évident. Il y a peu de personnes qui assument le fait de prendre des coachs parce que c'est aussi finalement un aveu qui est que tu n'es pas encore capable, entre guillemets, de le faire toute seule et que tu as besoin de te faire aider, ce qui est évidemment une grande preuve d'intelligence, mais peu de gens l'assument.
Et c'est vrai qu'il a été instrumental parce qu'en fait, c'est aussi lui qui a fait en sorte que les paroles se libèrent, de vraiment les mettre dans un contrat, dans un climat de confiance. Et ils ont dit des choses qu'ils n'auraient jamais dites dans un autre climat. Donc ça, c'était... Et à la fin, d'ailleurs, c'était très touchant parce que ils étaient évidemment ravis de ce moment-là. Mais ils m'ont dit et merci de t'être mise à nu comme ça. Parce que c'est vrai que j'étais avec eux tout le temps et j'ai entendu des choses sur, voilà, sur ma façon de manager final, qui pouvait être améliorée. Moi, j'avoue que j'étais quand même assez tendue avant ce week-end.
Ça devait pas être facile pour toi.
Non, c'était pas facile. Hein. Donc, c'est aussi pour ça que j'avais pris un coach, parce que je me suis dit, bon, on sait jamais si tu t'énerves, si tu dérapes. C'est le... Vraiment, alors, du coup, c'est exactement... Tu vas obtenir l'inverse de ce que tu voulais.
Mais c'est hyper intéressant parce qu'au final, c'est parce que toi, tu t'es mise à nu, que tu as montré ta vulnérabilité, que eux aussi, je pense, avaient la permission de le faire, tu vois, pour eux-mêmes. Parce que c'est sûr que c'est un petit peu délicat quand t'es manager ou CEO de boîte, etc., ou dirigeant en tout cas, et que tu demandes aux uns et aux autres de donner leur confiance, de se montrer vulnérable et de communiquer. Mais si toi-même, tu le fais pas, enfin, l'exemplarité, on y revient souvent dans ce podcast, en tout cas, je pense que c'est assez clé et c'est un bel exemple, en tout cas, qu'on peut le faire aussi dans un grand groupe, entre guillemets. Donc, je trouve ça assez inspirant.
La vulnérabilité, c'est un très beau sujet. Moi, je sais que j'ai appris beaucoup justement récemment et il y a eu un épisode. En fait, mon équipe avait fait, c'était dans un moment difficile, on était tous sous pression. Et puis, c'est vrai que je peux parfois être dure, je le sais très bien, et je suis très exigeante. Donc, je mets mes équipes dans des rythmes parfois un peu effrénés. Et bon, je sais dire merci, ça c'est des choses que j'ai apprises. En plus, aux États-Unis, on nous apprend très bien à le faire. C'est les moments où on célèbre les succès, les moments où on dit merci. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai récupéré de cette expérience new-yorkaise. Ce que je ne savais pas, c'est que les moments où on se montre vulnérable touchent les équipes aussi.
Bien sûr.
Et en fait, ils ont fait une présentation incroyable. C'était il y a un an. Et puis j'ai fait une conclusion que j'ai un peu improvisée puisque forcément il fallait que ce soit une restitution de ces deux jours. Et je me suis mise à pleurer en fait. Je m'y attendais pas une seule seconde, mais j'étais tellement impressionnée par ce qu'ils avaient fait et tellement touchée qu'en fait je me suis arrêtée. J'ai pas pu voilà, j'étais obligée de m'arrêter. J'ai eu les larmes aux yeux et bon après je me suis reprise. J'ai appelé mon assistante le lendemain en me disant mais catastrophe, tu vas en entendre parler, c'est une honte absolue, je m'en veux tellement, limite j'avais pas envie de retourner au boulot le lendemain quoi.
Ouais, mais je comprends.
Et elle m'a dit mais tu rigoles, tout le monde en a parlé et en tout bien, le monde quoi. Était extrêmement touché. Et ils l'ont vécu comme, elle voit que c'est dur pour nous et elle sait à quel point c'est...
vous faites équipe quoi.
Voilà.
Écoute, merci pour tous ces partages. Bon, je vais revenir sur des questions un petit peu plus concrètes, notamment de management. Est-ce que tu pourrais me décrire donc ton râteau de personnes directes? À quoi est-ce que ça ressemble concrètement? Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que tu peux me décrire, une fois de plus, c'est je me mets à la place des auditeurs qui eux-mêmes sont managers, par exemple, une bonne manager, qu'est-ce qu'elle ferait? Ce qui est ton cas. Tu les vois une fois par semaine, tu leur donnes des KPI quand tu les embauches et ensuite tu les laisses un peu seuls. Ta porte est toujours ouverte et tu es énormément dans le dialogue avec eux. Est-ce que voilà, tu as un peu une méthode, entre guillemets, que tu suis et que tu pourrais me décrire?
Alors oui, est-ce que je m'y tiens? Ça c'est encore une autre
ça c'est un autre sujet, mais bon. Tu sais ce qu'il faudrait faire, c'est déjà pas mal.
La grande difficulté, c'est que je suis beaucoup en voyage, hein, donc je pense que le grand sujet que j'ai avec mes équipes, c'est ma disponibilité justement. Donc après, on a mis en place des systèmes pour contourner ça. Donc on a un comité de direction et au départ, voilà, et on varie les fréquences. On essaie de vraiment se donner des feedbacks réguliers en se disant, il est pas assez régulier, il est trop rapproché. Voilà, on l'adapte aussi, mais en général, il est au minimum une fois toutes les deux semaines ou une fois par mois.
D'accord.
Fonction des périodes. Ensuite, j'ai des points avec mes reports directs tous les 15 jours. Et en général, je ne les vois pas en one-to-one, je vois toute l'équipe.
D'accord.
Après, je me rends compte que finalement, on se parle tous les jours. Donc, ce n'est pas nécessairement la porte ouverte parce que je suis très mobile, je suis beaucoup en déplacement, dans les avions. Mais par contre, on a des groupes WhatsApp. Voilà. Et en fait, au final,
d'accord,
je me suis rendu compte que c'était la meilleure façon de m'avoir. Je leur dis toujours, c'est WhatsApp. Vous me WhatsAppez, je vous rappelle tout de suite. Et au final, bah on fait ça. Et quand on est notamment en déplacement tous ensemble, on se crée un groupe WhatsApp de l'équipe qui est en déplacement. Donc, j'ai plein de groupes WhatsApp. Dolce Gabbana au Vietnam, Dolce Gabbana au Japon.
Et tu te fais spammer toute la journée.
Voilà. Et on s'envoie plein de photos, du coup. Voilà. Et je les relis avec plaisir. C'est souvent très drôle de les relire 2 ans après. Où es-tu ? Je suis là. Est-ce que la salle est installée ? Voilà.
Concrètement, les objectifs que tu fixes à tes collaborateurs, peut-être si on revient au début de l'aventure Dolce & Gabbana, c'est intéressant parce qu'en fait, si je comprends bien, tu l'as quand même créé un peu from scratch au départ. Qu'est-ce que tu as fait au début quand tu as débarqué ? Parce que c'était la première fois en plus que tu avais une aventure comme ça, assez intrapreneuriale, où en gros, on te donnait les clés, on te disait « Merci ma jolie, mais tu te débrouilles quoi ». Qu'est-ce que tu as fait ?
Alors d'abord, je me suis fait aider. Je pense que, en fait, je crois que c'est aussi un secret.
Bah, c'est un super message.
C'est que, voilà, c'est pas la peine de se dire « On arrive comme ça ».
On fait tout
seul. Il faut avoir l'humilité de se dire « Là, j'ai besoin de me faire aider ». Donc moi, j'avais pas d'équipe, on était 2. Par contre, j'avais la chance, quand j'ai commencé, d'avoir du budget. Maintenant, c'est l'inverse, j'ai des équipes, un peu moins de budget. Et donc, j'avais, à ce moment-là, on avait la chance, quand on a fait toute la transition entre Procter & Gamble et Shiseido, j'avais la chance d'avoir des équipes de McKinsey, en fait, autour de nous, qui travaillaient, en fait, pour le groupe Shiseido à ce moment-là, pour aider la transition. Et en fait, j'ai décidé de créer une équipe, de demander un stream de plus. Et donc, j'ai une équipe chez McKinsey qui a travaillé pour moi pendant l'été. Et voilà, je leur demandais vraiment un assessment, un état des lieux, et c'est vraiment sur ces 2 mois clés que j'ai basé toute ma stratégie en fait.
Et donc, études de marché, voilà. Force et faiblesse.
Et franchement, sans ça, je pense que j'aurais perdu beaucoup de temps. Je serais certainement arrivée à la même conclusion, mais pas aussi rapidement.
Sans passer par McKinsey, on peut se faire aider. Il y a des indépendants, des coachs, etc. Et tu trouves que cette prise de recul avec des extérieurs t'a été utile ?
Exactement. Et après, j'ai continué à le faire parce qu'ensuite, ça, c'était vraiment plutôt sur la partie stratégie, roadmap financière. Ouais. Sur toute la partie plus créative, comme on n'était que 2 ou 3, mon directeur marketing parfum, d'ailleurs, était arrivé à un moment donné un peu paniqué dans mon bureau en me disant « Mais comment on va faire pour recruter suffisamment rapidement ?» Alors, par contre, moi, j'étais ferme sur un point. Je lui ai dit « Je ne veux pas de compromis sur les talents. On a une chance incroyable qui est de composer l'équipe de rêve. Donc, on prend le temps. Et ce n'est pas grave. Du coup, on va faire appel à des freelances, à plein de gens de l'extérieur. » Moi, j'ai rappelé toutes les personnes que je connaissais qui étaient à leur compte. Et ça a été une richesse absolue, Bien sûr. Répondre à la question. Ouais. C'est que du coup, j'ai travaillé avec beaucoup de personnes qui, en plus, quand elles ont cette espèce de liberté de ton, parce que finalement, voilà, elles peuvent faire des recommandations sans avoir peur de froisser personne, m'ont beaucoup, beaucoup apporté. J'ai travaillé avec, notamment 2-3 freelances qui m'ont beaucoup aidé pour travailler sur toute la plateforme de marque.
Ouais.
J'ai préféré d'ailleurs ça à des agences parce que finalement, c'est des gens que je connaissais très bien, en qui j'avais confiance et avec qui j'ai très bien avancé. On a travaillé un peu comme ça, de façon très agile, en s'appuyant à la fois sur les ressources internes, externes. On a eu une première phase vraiment où on était un petit groupe de 15, je dirais. Ensuite, on a eu une deuxième structure qui s'est mise en place où, au départ, j'avais que la partie vraiment marketing. J'ai récupéré petit à petit la partie business development, communication, etc., etc., qui au départ étaient des services multimarques sur lesquels je m'appuyais. D'accord. Là, j'ai vraiment composé des équipes en interne. Donc aujourd'hui, on est vraiment une business unit qui couvre tous les métiers. Du digital en passant par le business avec bien évidemment le marketing et la communication.
Impressionnant. Il y a au-delà des coachs ou des externes, des freelances, il y a des livres, des mentors que tu aurais eu qui t'ont aidé, alors dans ce cas précis, mais même de façon générale dans ta carrière, qui t'ont particulièrement marqué ?
Oui, je pense que il y a une personne qui m'a particulièrement marquée, c'est Odile Roujol, qui était présidente de Lancôme, qui d'ailleurs elle est partie de Lancôme pour partir chez Orange et qui aujourd'hui a créé, qui est à San Francisco et en fait qui a créé une communauté justement de business angels. Et,
d'accord. Mais je crois que j'en ai entendu parler. Ouais, c'est
oui.
Chose.
Donc alors elle pour le coup, c'était un mentor. Qui m'a beaucoup conseillé à l'époque de L'Oréal, mais aussi après. qui m'a beaucoup appris. Et,
qui était ta N+1 à un moment donné chez Lancôme.
Exactement, qui était ma N+1 à un moment donné chez Lancôme. Ma N+2 pour être exacte. Et donc elle m'a beaucoup marqué, beaucoup appris. Ensuite, il y a eu Louis de Sazard, hein, qui était le patron en fait de NARS aux US, hein, parce que c'est un visionnaire. C'est un lui pour le coup, c'est vraiment un entrepreneur dans toute sa splendeur. il a créé des cultures d'entreprises, de marques from scratch en fait. Donc forcément, lui m'a beaucoup. Marqué, c'est aussi grâce à lui que j'ai vécu l'aventure Dolce & Gabbana. Donc je l'ai dit aussi, le patron de Valrhona, pour ses qualités d'entrepreneur aussi. Et j'ai la chance d'avoir à mes côtés mon compagnon qui est non seulement un soutien, mais qui n'hésite pas à me rentrer dedans. Qui n'hésite pas à me challenger, qui n'hésite pas à me pousser, qui n'hésite pas à me dire quand il pense que justement je suis à côté. Et ça, c'est une grande chance. J'ai ma meilleure amie qui est chez L'Oréal, Garance Delay, qui a une carrière fantastique, qui aujourd'hui est directrice générale de Valentino Beauté. Toutes les deux, on a commencé ensemble chez L'Oréal et... on échange beaucoup, on a continué à se co-coacher toutes les deux tout au long de notre carrière. Et avec elle, c'est vrai qu'on arrive à avoir ces discussions. Je me souviens d'ailleurs, on s'était dit chez L'Oréal, mais il y a peu de femmes qui arrivent à des postes de top management. Et on se disait toutes les deux, oui, mais pour nos filles, pour nos amis, nous, on se doit d'essayer d'y arriver en fait.
Voilà. Ça, c'est un pari réussi. Mais ce que je retiens au-delà de ça, c'est que finalement, tu as su t'entourer, soit avec des mentors, soit avec des amis, soit avec ton compagnon, finalement, tu l'as choisi aussi. Et je sens qu'en fait, ça fait partie intrinsèque aussi de ton évolution, de ta carrière, et que finalement, tu as l'humilité de voir que cette aide extérieure, elle est complètement utile. Et je trouve que c'est hyper intéressant, parce que souvent, on a un prisme un peu de la volonté fait tout, je peux y arriver tout seul, etc. Et c'est pas en fait un aveu d'échec que de dire qu'il faut se faire aider, c'est ce que tu as très bien dit tout à l'heure. Donc, je te remercie pour ça. En parlant d'échec, je me fais mon auto-transition. Une question que j'aime bien poser, tu en as parlé un peu par moment, tu as parlé de moments difficiles dans le cadre de ta carrière, mais est-ce qu'il y a eu des moments particulièrement compliqués dont tu pourrais me parler? Ça peut être dans un premier temps déjà au niveau professionnel, mais soit un échec, soit vraiment un moment dur qui t'a appris quelque chose sur toi-même, sur ton métier, dont tu pourrais nous parler.
Alors, dans la vie professionnelle, je dirais que le mot échec, il est un peu fort. Il y a vraiment eu des expériences où je me suis rendu compte que je me trompais sur ce dont j'avais envie, en fait. Voilà, c'est vrai que, par exemple, quand je suis partie de L'Oréal, que j'ai tout envoyé quelque part, j'ai fait ce grand saut dans le vide, je me suis dit que finalement, l'industrie de la beauté, j'en avais un peu assez, que j'étais prête à créer ma boîte, que je voulais revenir. Je crois qu'il y avait aussi cette quête de sens. J'avais envie de vraiment me lancer dans des choses qui finalement soit étaient liées à l'art ou à l'humanitaire, mais qui apportaient plus de sens.
Ouais,
et en fait, je me suis complètement trompée parce que d'abord, je me suis rendu compte que la beauté apporte beaucoup.
Bien sûr.
Et ça c'est la parfaite transition d'ailleurs pour ce que je vais dire ensuite. Et puis que la vie que je m'imaginais finalement très libre, soit consultante, soit montant ma boîte, c'est au départ quand même beaucoup de solitude.
Bien sûr.
Et que moi j'ai besoin d'être entourée. Voilà. Donc ça, c'est pas que c'était un échec, c'est que ça m'a appris.
C'est une prise de conscience plutôt.
Voilà, ça m'a appris que ce dont j'avais envie à ce moment-là, c'était pas moi. Mais ça m'a surprise d'ailleurs parce que finalement, on ne se connaît pas toujours aussi bien qu'on le croit. Et le deuxième moment qui a été vraiment fondateur, c'est que j'ai eu un cancer. Donc, quand j'étais à New York en 2014, j'ai été diagnostiquée, opérée à New York. Et ça, c'est bien sûr, ça, c'est un moment qui change la vie, qui change la perception des choses. Qui est extrêmement fondateur de qui je suis aujourd'hui. Et justement, d'ailleurs, la beauté, ça m'a confirmé ce que je pensais déjà, c'est que la beauté, c'est tout ce qu'on peut faire pour se faire du bien, pour se sentir belle. Justement, quand on traverse des épreuves comme celle-ci, c'est essentiel et c'est fondamental. Mmh. Je vais vous donner deux exemples précis. Moi, j'étais... Le cancer, c'est quelque chose que je connais malheureusement bien, puisque mon petit frère a eu un cancer à 19 ans, mon père est mort d'un cancer en 2011 et je l'avais beaucoup accompagné. D'abord, j'avais ces deux exemples-là d'hommes qui ont été extrêmement courageux et je me devais de toute façon de pas craquer par rapport à eux. J'ai décidé de me faire soigner à New York, ce qui quand même voulait dire que j'allais être très seule. Mais bon, aussi parce que j'avais l'accès aux meilleurs soins possibles à ce moment-là en étant, et mon assurance était là-bas de toute façon. Donc j'ai essayé d'être vraiment très courageuse par rapport à tout ce qui m'est arrivé. J'ai eu la nouvelle alors que j'étais en voyage en Corée. Donc voilà, vous imaginez, ouais. Vous êtes toute seule en Asie en déplacement professionnel. Donc ça a été des moments effectivement extrêmement durs. Et pourtant, je me suis surprise. Et je crois que c'est vrai pour tous ceux qui ont traversé ces épreuves-là. On n'imagine pas la force en fait qu'on a. Je crois que personne ne sait à quel point il est fort.
C'est vrai, quand tu me le dis comme ça, moi j'aurais l'impression que je serais complètement dévastée, que je pourrais plus rien faire. Et j'ai l'impression que tu t'es battue.
Ah oui, tout de suite en plus, tout de suite. J'ai eu la nouvelle, il était minuit, j'étais dans ma chambre d'hôtel en Corée. Je crois que le seul moment un peu où j'ai craqué, c'est que j'ai pris un vase dans la chambre, je l'ai cassé contre le mur, parce que c'est presque de la colère plus qui est ressortie. J'avais 39 ans. Et ensuite, je me suis dit, bon, bah, ok, c'est pour ta pomme, donc maintenant on y va, on se bat. Tout de suite. Donc ça a été...
Pas de moment d'affaissement.
Ah non, pas du tout. Et comme je me suis dit, bon, là, t'as la chance d'être en bon décalage horaire, entre guillemets, appelle tout de suite. Parce que du coup, là, tu peux joindre encore l'Europe, tu peux joindre les US. J'avoue d'ailleurs que mon patron de l'époque, Louis de Sazard, était absolument incroyable parce que c'est une des premières personnes que j'ai appelées. Il me suffit, mais tu rentres tout de suite. On t'amène une voiture à l'aéroport. Il m'a rappelé juste après en me disant je connais les meilleurs chirurgiens, etc. Donc voilà, donc là il était incroyable. Mais au-delà de ça, je pense que j'ai tenu vraiment bon. Il y a eu des moments évidemment extrêmement extrêmement difficiles, mais les moments où j'ai craqué, c'est quand je suis allée chez mon coiffeur favori, David Mallette, et que je lui ai dit bon, si jamais j'ai une chimio, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit bah là, ma chérie, c'est perruque. Ouais. Et là, alors que j'avais tenu bon, que j'étais, j'avais préservé certaines personnes de ma famille, je leur en avais pas parlé, j'avais été vraiment très forte.
Et tu te rends compte de ce qui...
Là, je me suis écroulée. Là, je me suis dit, enfin, c'est ridicule quand même. Et donc, je pense que oui, c'est important, surtout quand on est dans une bataille contre une maladie, de se sentir belle, de se sentir bien. Donc finalement, la beauté, ça n'a rien de superficiel. On n'est pas dans une industrie superficielle, c'est pas vrai. Et puis, ça fait du bien aux autres aussi. Je m'étais forcément, comme j'ai passé pas mal de temps à l'hôpital, je m'étais acheté une super jolie robe de chambre. Et les femmes, parce que j'étais dans une unité de femmes qui étaient autour de moi et qui se battaient aussi, me croisaient dans les couloirs avec ma perf et me disaient... Quelle jolie robe de chambre. Et en fait, voilà, c'est tout bête.
C'est en fait ne pas se laisser aller.
Mais exactement.
C'est ça aussi qui fait, tu vois, que tu vas te battre. Souvent, on dit, quand tu souris, ben, en fait, ça rend plus heureux. C'est
mais
un peu
exactement.
La même chose, quoi.
Mais exactement. J'avais débarqué à l'hôpital avec une trousse pleine de crème. Je me suis jamais autant maquillée qu'à cette époque-là. Donc, je pense que c'est au contraire, on est dans une très belle industrie.
T'as arrêté de travailler à ce moment-là ?
J'ai arrêté de travailler pas très longtemps parce que c'est les US. Je pense qu'en France, on m'aurait arrêté beaucoup plus longtemps. Ouais. J'ai arrêté de travailler 3 mois.
Mais au final, tu trouves que c'était une bonne chose de continuer à bosser ou c'était vraiment insupportablement dur ? Parce que je me dis que d'un autre côté, ça devait peut-être te forcer aussi à ne pas penser à tes problèmes. Quoi.
Les 3 mois, j'ai vraiment tout coupé.
D'accord.
J'avoue. J'avoue que d'autres, peut-être, auraient continué à faire leurs emails, etc. Non, moi, j'ai eu vraiment besoin de tout couper. Aussi parce que j'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin de mesurer ce qui était en train de m'arriver, notamment l'impossibilité d'avoir des enfants. Donc j'avais des choses de toute façon sur lesquelles il fallait que je me pose. J'ai eu la chance de pas avoir de chimio, donc ça c'est quand même une chance incroyable, parce que ça a été au final 6 mois difficiles, dont 3 mois où j'étais vraiment arrêtée, mais ça aurait pu être beaucoup plus long. Donc je mesure la chance que j'ai eue par rapport à d'autres. Après, je pense que j'ai cru d'ailleurs que j'allais complètement changer ma vie. J'ai eu finalement, après, j'ai quand même pas dire que c'est une chance, mais en fait, j'ai pas un mauvais souvenir de ces 3 mois, bizarrement, parce que je me suis complètement recentrée et posé 1000 questions sur ma vie. Je l'ai forcément vue très différemment. Ouais. Je me suis demandé ce que je voulais faire. Bon, là, j'ai pris la décision de revenir à Paris, du coup. Ça a été une des décisions pour passer plus de temps avec les gens que j'aimais. Parce que là, je me suis rendu compte que voilà, oui, c'était le plus important. Et derrière, j'ai pensé que ça allait me faire changer complètement de route. Et puis finalement, je suis revenue au travail et j'ai vraiment repris très vite goût au travail, et d'autant plus que j'avais une force nouvelle, un détachement. Qui ont fait que voilà, les angoisses du quotidien et le stress du quotidien, je le vivais plus du tout de la même façon. Je m'émerveillais de tous les voyages que je faisais. Juste après ça, je me souviens, le premier voyage que j'ai fait en plus, c'était l'Australie pour Nars. On reste pas longtemps malheureusement dans cet état-là, mais après des épreuves comme celle-là, chaque jour est un cadeau fait. Et c'est quelque chose qui me donne beaucoup de force encore aujourd'hui, parce que même si je l'ai perdu malheureusement, j'arrive à me remettre dans cet état-là assez facilement. Il me suffit de voilà une soirée ou deux de réflexion pour me dire.
Puis tu sais pourquoi tu fais les choses aussi.
Voilà. Maintenant. Et pour me dire en fait voilà tu sais pourquoi tu le fais.
Bah, merci beaucoup pour ce partage. Je pense qu'il aidera beaucoup de personnes. Un dernier peut-être conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui vivrait soit pour lui-même, soit pour son entourage, parce que je peux imaginer que pour l'entourage, c'est très dur aussi. Quelque chose qui t'a aidé, toi, qui te portait, qui a fait justement que tu t'arrivais finalement à ne pas déprimer, parce que je suis assez impressionnée par le fait que tu as réussi à toujours aller de l'avant et que tu t'es battue comme une lionne. Voilà, est-ce que tu auras un conseil à faire passer aux auditeurs à ce sujet?
Alors, je pense que... pour quelqu'un qui est dans mon cas, je pense que c'est vraiment ne pas hésiter à se faire aider et ne pas essayer d'être brave, courageux tout seul. En fait, je pense que voilà, il faut vraiment se faire accompagner, et bizarrement, on n'a pas toujours le réflexe. Donc moi, j'avais la chance, c'est vrai, d'être dans un très beau système aux US où voilà, on avait accès un peu voilà à des psys, à tout ce qui voilà, tout ce qui pouvait nous aider autour. Il faut vraiment aussi penser à tout ce qui est médecine alternative. En fait, quand on est en train sur des traitements lourds ou une opération lourde, vraiment pas oublier de prendre soin de soi aussi sur des petites choses. Moi, je sais que j'avais changé mon alimentation, j'avais des petits rituels qui m'ont fait du bien en fait, parce qu'on a il faut avoir l'impression de se faire du bien en dehors des traitements qu'on peut avoir,
hein. Pas être donc, dans la souffrance en permanence,
exactement,
quoi.
Donc les massages, parler à des gens, ça peut être parler à des gens qui ont vécu la même chose que nous, hein, si on n'est pas très psy, voilà. Et je pense que pour ceux qui et ne pas oublier aussi, et ça malheureusement j'ai fait l'erreur, de comprendre que ceux qui nous accompagnent souffrent aussi et ont été traumatisés aussi. Moi, j'ai fait l'erreur de pas suffisamment comprendre à quel point mon compagnon avait aussi lui vécu quelque chose de très difficile. Je l'ai compris après, on en a parlé, mais c'est vrai que sur le coup, je l'ai pas assez protégé, je pense. Et alors, on peut pas toujours tout faire, mais non, mais en tout cas, par la suite, j'ai pas non plus, j'ai pas réalisé qu'il était lui aussi passé par une période très difficile.
Très belle transition, je te remercie, vers la vie de couple et puis l'organisation pro et perso de façon générale, parce que tu travailles beaucoup, tu voyages beaucoup en plus, et c'est une question très récurrente, que ce soit pour une femme ou un homme d'ailleurs, avec ou sans enfant. Je pense qu'on a tous juste un temps qui est assez limité, et on se dit mais comment je vais pouvoir tout faire rentrer dans une même journée. Je voulais te demander, parce que j'ai l'impression que tu t'organises bien, malgré cet emploi du temps très chargé, quels sont les grands principes que tu appliques? Est-ce qu'il y a des règles immuables, des rituels peut-être dont tu pourrais me parler, qui font que tu arrives à t'organiser au quotidien pour à la fois préserver ta vie perso et donner une place importante à ta vie pro? D'autant plus qu'avec ce que tu as vécu, je peux imaginer que tu as quand même envie de donner une bonne place à ta vie perso aussi, quoi.
Alors, je pense que, pour être très, très honnête, au début, j'ai eu beaucoup de mal. Hein. C'est-à-dire que.
Mais ça fait plaisir que tu le dises, parce que. Voilà, au les début. Gens se disent, c'est magique, ça marche
non,
tout
pas
seul,
du tout. Pas non, non, au début, je pense que la première année et demie, j'ai l'impression que j'étais dans une machine à laver et que j'avais beaucoup de mal. Alors, après, je pense que quand on a justement cette sensation-là, il ne faut pas hésiter à s'arrêter, prendre 3 jours. Voilà. Mmh. Moi, c'est ce que je dis à toutes mes équipes, d'ailleurs. Hein. Je leur dis, attendez pas la fatigue, le burn-out. Si vous sentez que vous êtes broyé, vous vous arrêtez. Donc, c'est 2 jours. Hein, voilà. Soit vous prenez 2 jours pour bosser de la maison, soit vous prenez vraiment 2 jours. Et ça, je l'ai fait très régulièrement. J'ai pas du tout de voilà j'ai pas de problème à le dire. Je posais 3 jours, je m'arrêtais, je coupais. Je pense que ça, c'est vraiment dans les périodes de grand stress,
c'est hyper clé, parce que je pense que beaucoup de gens sont une espèce de tu sais, le truc de la souris là qui tourne. Et en fait, ils ne veulent jamais s'arrêter par peur en fait que le monde continue sans eux, ou que la boîte va s'écrouler, ou je ne sais quoi. Mais en fait, 2 jours, si jamais ça te permet de retrouver tes bases et de juste être à nouveau un petit peu plus sain, sans stress, etc., enfin, c'est rien. Et je pense que c'est un excellent conseil.
Ça change rien, ouais. Exactement, et on se rend compte une fois qu'on l'a fait que ça ne change rien. Donc la première fois, on se fait vraiment violence et on n'est pas bien. Et la deuxième fois, voilà. Après, c'est vrai que je suis assez fan du home office. Je pense que le faire très régulièrement, ça aide beaucoup.
D'accord. Donc, travailler à la maison.
Exactement. Je crois aussi beaucoup au droit à la déconnexion digitale. Donc, une des meilleures initiatives que j'ai prises, c'est que l'année dernière, j'ai pris un téléphone perso. Donc le week-end, bien évidemment, je consulte mon téléphone pro, mais il n'est pas systématiquement avec moi. Donc bon, ça c'est pareil, il faut se faire violence. Hein. Ouais. Mais au final, je me suis rendu compte que j'avais rien
t'y
raté. Bon, mon assistante est la seule à avoir mon téléphone perso. Donc en cas de gros problème, de toute façon, voilà. Mais honnêtement, j'ai jamais rien raté de crucial à cause de ça. Et à côté de ça, je pense qu'il faut s'imposer aussi des rituels. C'est bête, mais voilà, avec mon amoureux, on a un date toutes les semaines.
Toutes les semaines,
c'est notre date. Voilà.
C'est trop bien.
Donc, il peut être on s'adapte. On a un agenda qui est mouvant. Alors, c'était hier soir. Hein, on est dans un petit resto italien.
Mais c'est génial.
Mais voilà, il faut s'organiser, parce qu'en fait, sinon, on se laisse vite.
Exactement. Tu te laisses broyer, et puis tu as la roue qui tourne comme ça, et puis finalement, t'arrives jamais à décider de ce que tu vas faire. Donc, je trouve que c'est hyper inspirant. Merci. Je retiens l'idée du double téléphone. Je trouve ça pas mal. du tout. Est-ce que tu peux me raconter à quoi ça ressemble ta journée? Alors, une journée, mettons, classique à Paris,
oui,
plus
quand je suis
une
pas
journée
en voyage.
Voyage.
Alors, je pense que d'ailleurs, c'est là qu'il faut qu'on s'améliore un peu. C'est une journée qui est truffée de meetings quand même. Mmh. Hein, ça, on a la maladie du meeting aiguë, mais on va essayer de s'améliorer là-dessus. C'est notre comité de direction et moi, c'est notre grande bataille. En fait, je vais souvent le matin. Je commence la journée dans la voiture, donc en fait j'appelle mon assistante, voilà, tous les matins.
D'accord.
Tous les matins, c'est notre petit moment, voilà.
Un briefing de la journée.
On se parle tous les matins, et avant de commencer la journée, on se cale sur l'agenda, sur ce que parce qu'après je sais que j'aurai pas le temps de lui parler, et donc je crois qu'elle, elle est essentielle à mon travail, mon bien-être, et ça c'est quelqu'un de en plus qui est plein de joie de vivre, donc voilà, c'est mon rayon de soleil du matin, et on organise tout.
Juste si c'est pas indiscret, c'est autour de quelle heure ça? Tu vas au boulot vers quelle heure?
En général, ça va être 9h, voilà.
Classique.
9h, complètement classique. Ensuite, j'arrive, donc je commence mes journées souvent par des meetings, donc 9h, 9h30, dépendamment des journées. Il y a plusieurs types de meetings. Je vais avoir les meetings avec mes équipes dont on a parlé, et c'est souvent le plus dans mes journées. Voilà, je vais avoir un meeting avec mon équipe marketing, suivi d'un équipe avec mon équipe communication. L'habitude que j'ai pas perdue de New York, c'est que je fais pas de pause pendant le déjeuner.
D'accord.
Ça, j'ai jamais réussi à m'y remettre, en fait. Pour moi,
c'est devant ton ordi ou déjeuner d'affaires, quoi.
Voilà, exactement. Je fais quelquefois des déjeuners, mais là, pour le coup, c'est vraiment parce que j'ai un entretien de recrutement pour quelqu'un dans mon équipe, ou ce type de choses, ou justement un moment où je veux savoir comment quelqu'un de mon équipe va. Mais sinon c'est pas de pause déjeuner. Je vais enchaîner avec pas assez, mais bon, j'ai quand même des moments pour faire mes mails et réfléchir et
donc
travailler.
Un peu du deep work, voilà. À ce moment-là.
Mais ça, finalement, dans la journée, j'ai très peu de temps pour ça. Mm. J'ai d'autres types de meetings puisque je fais partie du comité de direction de Shiseido, donc on a
global.
Nos meetings Comex, pas mal de calls avec les équipes.
Mm.
Et puis il y a une deuxième personne que j'ai de façon régulière tous les jours aussi, c'est la directrice de la licence Dolce & Gabbana qui est à Milan. Où on se parle des urgences toute la journée. On a pas mal de calls à l'international aussi puisque le siège social de Shiseido est à Tokyo. Mm. Mon plus gros marché c'est les US, donc
ouais.
On a pas mal de nos journées sont pas mal organisées aussi autour des visios
bien sûr, ouais.
et des calls qu'on peut avoir soit avec Milan, soit avec Tokyo, soit avec New York. En fin de journée, j'ai toujours quand même au moins une heure où je fais le tour de l'open space. Je vais voir un peu chacun pour savoir comment il va. C'est un peu le moment justement où
d'accord.
on discute tous et on s'appelle de toute façon tout au long de la journée. Comme je le disais, on a un peu notre hotline
ouais.
d'équipe. Et en fin de journée, là, j'arrive quand même en ce moment à partir. Vraiment à 19h30, 20h, sans aucun problème.
Oui, mais des journées bien denses quand même.
Mais c'est des journées très intenses. Mmh. Ce qui me donne du souffle et me permet vraiment de réfléchir, ces journées-là, c'est vraiment des journées, celles où je suis à Paris, où je vais avoir pas mal de validations de projets auprès de
ouais.
mes équipes. On va avoir des groupes de travail, mais c'est dans ces moments-là que je vais avoir des idées. Donc en fait, moi, j'ai un rituel qui me vient de New York et que j'ai gardé, c'est quand je rentre, j'ai un sas de décompression et comme ça me permet de pas amener le stress chez moi. Donc en fait, je me pose dans le café en bas de chez moi.
Génial.
Et c'est tous les jours. D'ailleurs, du coup, c'est devenu mes amis. Ils connaissent tout de mon boulot.
C'est trop bien.
Donc voilà.
Génial comme idée.
Soit je prends un café, mais souvent je prends mon petit verre de vin et mon cocktail. Soyons très honnêtes.
Très
un verre de vin
Bonne
ou un cocktail. Exactement. Là, je fais les mails que j'ai pas eu le temps de faire,
hein,
mais au calme, ailleurs, hein, pas du tout au calme, d'ailleurs, dans un grand brouhaha. Mais moi, j'adore ça. Et c'est là que me viennent toutes les idées, en fait. Là et dans les avions.
Génial, j'adore, j'ai envie de le faire. Je trouve ça trop bien. On va parler, si ça te va, pour terminer, de petites questions vraiment personnelles, hygiène de vie.
Oui.
Ta relation au sport, t'en fais, t'as pas le temps, tu
Alors,
t'y intéresses
si. J'ai mon rituel du samedi, en fait, je fais du Garuda. C'est un dérivé du Pilates.
Ah.
Avec des machines, en fait. Donc, j'ai fait beaucoup de pilates aussi parce que pour
oui,
ma
danse.
Rééducation. Pour la danse, d'abord. Et puis ensuite, c'est comme ça que je me suis rééduquée après mon opération. Donc, de toute façon, j'ai continué. Donc, ça, c'est des cours particuliers que je fais avec ma coach. Justement, comme j'ai eu quand même une grosse opération, je fais pas de cours
oui, tu peux pas
collectif.
Faire n'importe quoi.
Non. Mais ça, c'est tous les samedis matin. Voilà. Et je me fais masser juste après. Et c'est devenu deux amies, en fait. Hein. Donc, les deux, elles savent tout quand elles me voient arriver. Elles savent si j'ai eu une semaine difficile
ouais.
ou pas. Donc, ça, j'essaie tous les samedis matin. Mais si je voyage pas, évidemment, quand je voyage, elles me donnent des exercices à faire que je fais.
Donc, t'essayes quand même
voilà.
d'être rigoureuse et de
oui.
faire tes exercices.
Donc ça, bon, je dis une fois par semaine, c'est pas énorme,
mais
c'est quand même déjà
un moment
ça.
De décompression.
J'aimerais pouvoir faire plus, mais quand j'étais à New York, j'arrivais à faire ça trois fois par semaine.
On peut dire que là-bas, il y a des salles de sport partout.
C'est plus facile.
Aussi,
exactement. Après, je fais quand même toujours du piscine ou mes exercices, justement, quand je suis en voyage.
Niveau alimentation, t'as un régime particulier, je veux dire, t'essayes de faire attention ou en fait maintenant tu te lâches complètement. Tu me parlais du fait que quand t'étais malade justement, t'avais dû un peu changer ton alimentation. Est-ce que ça a changé ta vision de l'alimentation ?
Complètement, ça a complètement changé ma vision de l'alimentation. Alors j'ai réussi pendant longtemps à vraiment suivre tous les bons principes, c'est-à-dire commencer la journée, j'avais un Nutri-Blend avec le bon jus de légumes et de fruits. Ça, j'ai réussi à continuer avec
c'est
un
cool.
peu de curcuma et tout ça, j'arrive à le faire sans problème. Après, j'avoue que j'ai quand même beaucoup dîné, déjeuné, professionnel, beaucoup de voyages, donc c'est compliqué d'être très, très, très rigoureux. Bien sûr. Ouais, ouais. Et j'ai compris surtout qu'en fait, ça servait à rien de trop s'imposer ça en plus de tout le reste. Donc, j'essaye de bien sûr faire attention. Ce que j'essaye de faire maintenant quand je voyage, c'est de toujours goûter
la
cuisine locale. Donc, ça, j'essaie de le faire pour le coup. Et je trouve que... Alors, je vais beaucoup au Japon, donc j'adore la cuisine.
C'est plutôt sain, là-bas.
En plus, c'est très sain. Chaque fois que je reviens, de toute façon, j'ai l'impression d'avoir mangé pendant des semaines et finalement, j'ai maigri. Donc voilà, donc je pense qu'il faut juste ne pas exagérer, mais pas non plus trop se stresser dessus. Ça sert à rien, je pense. Par contre, ce que je fais très régulièrement, c'est des cures de jus de l'atelier Nubio, que je trouve assez...
Ouais,
assez génial pour moi parce que justement après un voyage ou après des semaines où j'ai eu plusieurs dîners professionnels, je le fais vraiment, je le fais au moins une fois par mois.
Donc quand même, on va dire un principe général d'une alimentation assez saine,
oui.
Et puis quand même pas mal de légumes, je vois, de fruits, de jus pour t'hydrater avec pas mal de nutriments. Quoi.
Voilà. Après, je suis une bonne vivante, hein, donc.
Oui, on a retenu le petit verre de vin, le petit verre de vin tous les soirs. Mais je relate très très bien. Ma dernière question sur le sujet, c'est par rapport au sommeil. Je trouve qu'il y a un peu un mythe permanent, alors notamment au niveau des entrepreneurs, mais même de n'importe quel grand professionnel, qui est qu'en fait, pour être successful dans la vie, il faut ne pas dormir beaucoup et beaucoup travailler. Et alors tu me dis que tu fais des grosses journées très denses, mais au final, tu finis pas non plus à 23 heures. Quand tu n'es pas en voyage, en tout cas. Est-ce que tu es plutôt du style à bien dormir et c'est important pour toi, ou quand tu rentres à la maison, tu bosses, comment ça se passe ?
Non, moi, c'est important pour moi de bien dormir. Je pense que si je ne dors pas bien, de toute façon, la machine va s'arrêter à un moment ou à un autre. Donc, j'essaye d'avoir 8 heures. C'est extrêmement difficile, sincèrement. Je sais que il me faut minimum 6 ou 7. Après, quand même, régulièrement, j'arrive à faire 8 heures. Mais c'est pas tous les jours. Et puis, il y a évidemment les périodes de rush où on tient un petit peu, sur les nerfs. Je pense que j'arrive quand même, quand je suis à Paris, à faire 7-8 heures sans aucun problème. Là où c'est compliqué et là où il faut commencer à jongler un peu et avoir des petits trucs et astuces, c'est quand on est en voyage.
Ouais,
donc, moi, je suis quand même, j'ai un taux de déplacement de 30-40%. Donc,
ouais.
Là, c'est là où, en fait, il faut vraiment bien programmer les choses.
Justement, comment tu gères le décalage horaire ? Enfin, tu dois être... En plus, qui dit décalage horaire, là, dit décalage horaire avec des obligations professionnelles juste derrière, où tu dois être quand même un minimum éveillé, vive, prendre des décisions. T'as pas le droit de t'endormir en réunion, quoi.
Exactement. Donc, en fait, j'avoue que là, il faut se programmer de façon un peu...
des siestes et
tout. Voilà. Donc, en fait, il faut absolument programmer les vols. J'ai fait ces heures-là dans le passé, hein, donc je sais que programmer les vols n'importe comment sans prendre en compte la fatigue qu'on va avoir au retour ou à l'aller, en fait, c'est presque une erreur professionnelle.
Ouais.
On a l'impression que, du coup, on est super performant et en fait, non. Donc maintenant, je le fais plus. Maintenant, ce que je fais, c'est que j'essaie d'arriver juste un peu avant, un grand meeting, par exemple, quitte à me sacrifier un bout de week-end, bon, bah, c'est pas grave, si c'est Tokyo en plus, cette ville est magique, donc c'est
même.
Pas, voilà. Si je rentre d'un voyage très très long, maintenant je fais une journée de home office, voilà. Et je pense que ça, et je le planifie à l'avance. Je fais en sorte aussi que les vols soient des vols de nuit, pour pouvoir dormir dans l'avion, j'essaie de vraiment bien m'organiser. J'ai compris qu'en fait, être en bonne santé et pas fatigué, c'est la base, hein. C'est le début, ça.
C'est,
après,
ouais,
si on n'a pas ça,
pour être professionnel.
Si on n'a pas ça, c'est pas la peine, voilà.
Hyper inspirant et j'espère que beaucoup d'auditeurs vont en prendre de la graine, si je puis dire, parce que je pense que c'est pas forcément acquis pour tout le monde. Et pour moi, j'ai fait toutes les erreurs. J'essaye de progresser, mais j'ai fait toutes les erreurs aussi. Pour terminer, j'aime bien poser toujours une question qui est par rapport à des livres. On a parlé un peu de mentor, de coach, etc., mais on n'a pas parlé de livres. Moi, j'aime beaucoup lire. Est-ce qu'il y a des livres, ça peut être littérature, ça peut être business, ça peut être de la science-fiction, ça peut être ce que tu veux, de l'art, qui t'ont particulièrement marqué, inspiré, peut-être que t'offres aussi autour de toi parce que tu sens que vraiment ils peuvent apporter quelque chose aux autres.
Alors, en ce qui concerne les livres, moi j'ai vraiment pas du tout de lecture sur empowerment ou comment mieux vivre ou bien-être ou quoi que ce soit. En fait, c'est pas des lectures finalement qui m'intéressent, même si c'est des conversations que j'adore avoir. Mais c'est pas des livres dans lesquels j'arrive vraiment facilement à me plonger, parce que pour moi, un livre doit te déconnecter. Donc j'ai vraiment besoin que ça me plonge dans un univers, mais alors qu'il n'a rien à voir avec mon quotidien, rien à voir avec, avec le boulot. J'ai un auteur favori que j'offre régulièrement, qui est Nabokov, avec pour moi son plus beau livre, qui est Ada ou l'ardeur.
Je ne l'ai pas lu.
Ça parle de passion, il est toujours plein d'humour, très fin. Ouais. C'est vraiment très beau, très... toujours un peu provocant, je suis quelqu'un de très passionné, donc dès qu'on parle de passion, forcément ça me parle. Ça, c'est typiquement le bouquin que j'offre quand je tombe amoureuse, voilà.
Histoire d'être sûre. Si la personne n'aime pas, oui, mais alors, c'est mal barré.
Je suis pas très sûre que tous mes amoureux l'aient lu.
Mais ils t'ont dit qu'ils l'avaient apprécié.
C'est comme un grand pavé. Je vois. Très fan de polar, en fait. Voilà, j'adore les polars, avec Fred Vargas, qui est mon auteur
super
favori.
Super moyen de décompresser, voilà. Pour le coup.
Et alors là, pour le coup, exactement.
T'as un livre préféré de Fred Vargas ?
Je pense que c'est Dans les bois éternels.
D'accord.
Au final. J'aime bien me faire un peu peur aussi, ouais. Voilà. Et alors, plus jeune, hein, j'ai été marquée, mais alors, c'est parce qu'on a cité la science-fiction, par Dune. Frank Herbert, pour le coup. Alors ça, c'est mon côté un peu geek.
Bah,
j'ai deux frères, donc voilà. Dune, ça m'a beaucoup marqué.
Bah, pour le coup, ça transporte.
Oui, alors là, pour le coup, là, on est ailleurs.
On part très, très loin. On part très, très loin. Bon, génial. Avant de te quitter, est-ce qu'il y a un dernier message, quelque chose dont on n'a pas parlé, que tu avais envie d'aborder ?
Non, je pense que si, alors peut-être je ne l'ai pas suffisamment dit, mais c'est vrai que moi j'ai une autre motivation transverse dans mon métier, qui est de vraiment aider les femmes à oublier qu'elles sont femmes dans le boulot. Et je fais tout ce que je peux pour
mais à
aider,
pas non plus se voir comme des hommes, quoi.
Et voilà. Et donc, et je fais tout ce que je peux pour vraiment les aider à se révéler. Et c'est pas nécessairement justement pour avoir une promotion ou autre. Mais en tout cas, c'est pour trouver l'équilibre dont elles ont besoin. Donc, j'ai pas mal de femmes d'ailleurs qui arrivaient en entretien en me disant, bon, bah, moi, donc, du coup, j'ai des enfants et ça. J'ai dit, mais c'est not relevant, comme disent les Américains. On s'organisera, il n'y a aucun problème, en fait. Et voilà, et j'ai eu beaucoup de femmes qui ont été en congé maternité pendant ces trois dernières années chez Dolce & Gabbana. Et en fait, on a toujours trouvé, une façon de s'organiser. Je les ai toujours accompagnées. Et je pense que ça, et je pense qu'entre femmes particulièrement, il faut s'aider, parce qu'en fait, si nous, on s'aide pas entre nous, c'est compliqué.
Voilà. Oui, et puis les femmes s'aident pas toujours beaucoup, en plus, en la matière.
Exactement.
Je pense qu'on peut le dire.
Exactement. Et donc, travailler cette solidarité féminine au quotidien, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur.
Bon, le message est passé. Si on veut te contacter sur le monde merveilleux du web, on va sur le site, évidemment, de Dolce & Gabbana Beauty.
On est en train de développer le site.
D'accord.
Donc
on ira sur ce site.
On a un Instagram.
Voilà, votre compte Instagram. Et sinon, toi personnellement, tu as des réseaux où on peut éventuellement te suivre, te contacter
Alors Instagram, c'est vraiment mon réseau favori au final, et LinkedIn bien sûr.
Ok, je mettrai ça dans les notes de l'épisode si ça te va. Merci beaucoup Audrey pour tout ton temps.
Merci à toi.
Hello à nouveau. Et quelques dernières petites choses avant de vous quitter. Comme d'habitude, si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, que ce soit les outils, les livres cités, c'est simple, les directement sur le descriptif du podcast sur l'appli de votre choix. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions, proposer de nouveaux invités peut-être, ou juste me faire un feedback, n'hésitez pas. J'adore les feedbacks. Donc foncez directement sur Twitter ou Instagram sous le pseudo Pelaigneau, @PLAIGNEAU. J'essaye de répondre quand on me parle, donc n'hésitez pas. Et comme à chaque fois, vraiment mille merci d'avoir écouté jusqu'ici. N'oubliez pas, si le podcast vous plaît, que vous appréciez tout ce travail, le plus simple pour m'aider, c'est tout simplement de mettre soit un petit mot doux, soit une note 5 étoiles sur iTunes, ou de partager sur vos réseaux sociaux aussi. Ça donne le moral, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast, donc n'hésitez pas. Voilà, merci à tous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.